en appelant d'aujourd'hui la traversée du règne humain. Quand la monade, donc la racine de vie, sort du règne animal, dans son évolution, elle va rentrer dans le règne humain. Elle sera donc appelée une monade humaine. À l'entrée du règne humain, elle prend un véhicule d'homme animal. C'est un véhicule qui, il y a 18 millions d'années, a été conçu par la nature et c'est un véhicule qui se distinguait des autres animaux. Alors, dans l'histoire ancienne, il faut savoir que cela a été évoqué comme étant la chute de l'homme. Il faut savoir que chute signifie, dans sa conception normale, une descente dans la matière, à bien distinguer de la chute des anges solaires. Au moment où les anges solaires, que sont en réalité l'être, dans son évolution à travers le règne humain, il devait prendre en charge les mondes de la nature. Et voyant les véhicules qui leur étaient proposés, un tiers refusèrent en disant « Nous, êtres de lumière, nous ne rentrerons pas dans ces véhicules grossiers. » Le temps s'est écoulé et ils se sont aperçus que les hommes véhicules sans mental, puisqu'ils devaient fournir le mental à bord de ces hommes animaux, hein, de ces véhicules, copulèrent avec d'autres animaux. De là, vous avez toute la descendance des singes. En fait, le chaînon manquant ne pourra pas être trouvé, parce que ce n'est pas l'homme qui descend du singe, mais le singe qui descend de l'homme. Et les êtres qui refusèrent occupent encore ces véhicules. Je ferme la parenthèse, mais c'est pour que vous ayez une notion d'une aventure qui s'est déroulée il y a 18 millions d'années, qui a été la chute des anges solaires. Nous sommes à l'époque de la Lémurie, deuxième partie de cette troisième race, et l'aventure de la traversée du règne humain, troisième race. Première race, elle était purement éthérique, c'est la race adamique. Deuxième race, c'est l'hyperborée. Troisième race, c'est la Lémurie. Quatrième race, c'est l'Atlantide. Donc, à partir de cette deuxième moitié, vous avez l'humanité en corps physique dense, Adam et Ève. Adam et Ève, ce n'est pas un couple, c'est un terme générique pour désigner l'homme sexué. Terme générique pour désigner l'humanité sexuée. Derrière cette grande aventure, il y a un dessein. Ce dessein, c'est que les grandes vies qui donnent vie à l'ensemble des sept univers ont pulvérisé leur vie en les myriades de vies de l'évolution et que par le principe même de l'évolution, il faut créer le processus de faire avancer les vies jeunes dans l'évolution de la vie. Et que par conséquent, le plan terrestre présente la particularité d'être la jonction entre les règnes microcosmiques, les trois règnes microcosmiques, les particules, les ions, les électrons, les atomes, et les règnes de la nature, les quatre règnes de la nature qui vont jusqu'au quatrième règne humain, permettant ainsi l'union des deux pôles de la vie, esprit-matière, et qu'en tant que fils, puisque en manifestation, les grandes vies ne sont jamais que le Fils, et que le Fils puisse un jour, sur le plan terrestre, dire en pleine conscience assumée, « Moi, Dieu, je suis matière. » Vous voulez que j'aille plus loin? Pour qu'un jour, hein, quand un être peut, en connaissance de cause, et en l'assumant bien évidemment, peut dire « Moi, Dieu, je suis matière », eh bien ce tout petit sur cette terre rejoint le plus grand des dieux. Et on va voir, si vous voulez, que le règne humain est en fait un monde composite. Alors je vous donne d'abord les principes, hein, pour que vous compreniez en fait quel est le dessin qui est poursuivi pour que ensuite puisse l'appréhender dans son déroulement. Alors il faut savoir que l'homme en fait est un ensemble de mondes composites et que pour la première fois, il est l'unité fondamentale complète de la manifestation de la vie, au sens où il va réunir en lui les trois pôles de la vie, esprit, conscience, matière, ou en manifestation, vie, conscience, forme, ou pour parler différemment, père, fils, mère. Alors il est composé d'un ensemble de corps, qu'on a déjà évoqué comme étant le corps physique double, le corps émotionnel ou astral, le corps mental composé du corps mental concret, de l'âme. Alors qu'est-ce que l'âme ? L'âme, c'est l'être permanent qui est constitué à l'entrée du règne humain et qui va traverser le règne humain. Et cet être permanent, selon des cycles, va se projeter dans les mondes de la matière pour remplir son contrat de vie, ce contrat de vie étant de faire évoluer toutes les myriades de vies mineures qui constituent ces trois corps. Le point essentiel pour avoir une vue claire de l'évolution, c'est qu'en fait, notre corps physique double, notre corps émotionnel ou astral, notre corps mental concret, sont composés de myriades de vies mineures dont nous avons la charge. C'est notre contrat de vie pour les faire évoluer. Alors, on verra dans les cours ultérieurs, pas cette année, mais on l'aborde quand même, que notre corps énergétique, physique, est au contact de l'âme du minéral, que notre corps émotionnel est au contact de l'âme du végétal, que notre mental concret est au contact de l'animal, de l'âme de l'animal, du règne animal, puisque ce sont des âmes groupes. Vous voyez tout de suite la non-séparativité de l'ensemble. Et c'est pour ça que si on s'en tient par exemple au règne animal, eh bien la méchanceté de l'homme a été transférée au règne animal. Et c'est pour ça qu'il a été dit, si vous voulez, dans les temps anciens, un jour le loup dormira avec l'agneau. Parce que l'humanité ne transmettait en plus de pollution agressive, le règne animal ne connaîtra plus cette pollution de méchanceté et d'agressivité.
C'est depuis qu'il est devenu carnivore, parce que à l'origine des temps, d'après les écritures, tout le règne animal était végétarien.
Oui, mais il y a...
Si depuis le déluge, je crois que l'homme a été autorisé à manger de la chair animale à titre de secours, parce que rien ne poussait encore.
Alors, au-delà de l'âme, de l'être permanent, nous avons le mental supérieur ou manas, et puis nous aurons le corps bouddhique ou christique, et le corps atmique. Et nous aurons donc notre racine de vie sur le plan monadique. Quand on sait que les monades humaines et les monades déviques forment l'âme de l'homme céleste, que le plan atmique est lié à son mental, que le plan bouddhique est lié à son corps émotionnel, vous voyez donc qu'il y a unicité de la vie, de l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit. La particularité, si vous voulez, dans ce cycle de manifestation, c'est que l'homme est amené à être la synthèse des sept règnes. Alors on va dire que l'aspect mère a fait l'essentiel de son travail, en fournissant le corps humain tel que nous le connaissons, et dans les temps futurs, eh bien, ce sera surtout une évolution liée à la beauté. Mais comme tel, le véhicule humain est à peu près abouti. Et on verra que, pour l'instant, il ne permet pas de distinction véritable entre le quatrième et le cinquième règne. Mais dans l'ère où l'on va maintenant, les êtres du cinquième règne auront des véhicules plus affinés, plus en beauté que le quatrième règne.
Vous parlez de l'aspect physique extérieur.
Oui. Ben oui, il faut bien distinguer les trois aspects. Hein. Qu'est-ce qui distingue un être du quatrième, du cinquième règne aujourd'hui? C'est son champ de conscience. Et on va voir justement quelle est la progression dans le règne humain. Alors, dans la traversée du règne humain, nous avons symboliquement 700 vies à franchir sur le chemin de l'allée. En quoi consiste ce chemin de l'allée? Il consiste en l'édification du corps physique dont le cycle lémurien a été la période correspondante. Pour être au contact d'un monde, il faut un véhicule. La période atlante était une prédisposition à l'épanouissement du corps émotionnel. Alors ce corps émotionnel aurait dû être à l'origine l'aspect inférieur du corps mental, que nous pouvons désigner comme étant la sensibilité. Mais cette sensibilité, n'étant pas gérée avec détachement, elle a engendré, de par l'humanité, tout un monde de passions, de pulsions, de perturbations, appelé en Orient Kama Manas, donc mental émotionnel. Et cela, à l'époque atlante, a généré une bande qu'on appelle aujourd'hui l'astral. Dans son côté bas astral, l'enfer, c'est-à-dire toutes les turpitudes humaines de toute nature, et dans son haut astral, l'affectivité. Ce n'est pas le sujet du jour, mais dans un avenir, vous aurez à bien distinguer la différence entre amour et affectivité. Dans notre race présente, la cinquième, la race aryenne, hein, pas confondre avec des appellations récentes, hein, eh bien, nous développons la maîtrise du corps mental. Les 700 vies concernent l'édification de ces trois corps qui, en synthèse, vont vous donner la personnalité. Et par conséquent, la fameuse prise de conscience, moi, je, centre du monde. Cela développe ce qui est nécessaire, l'individualité de conscience, mais dans le monde difficile où l'on est, cela s'accompagne de séparativité. Or, si vous regardez, aujourd'hui, beaucoup d'êtres humains sont arrivés à ce stade d'évolution. Tout ce processus recouvre la période du non-soi, c'est-à-dire la domination des vies mineures. Pourquoi je dis domination des vies mineures ? Parce que l'âme, l'être humain en réalité, l'unité de conscience centrale, n'a pas les commandes et donc est prisonnier de ces vies mineures. Appétit physique, passion et pulsion émotionnelle, forme pensée, on va dire, entre guillemets, unique, caractérise les comportements de personnalité. Là, nous avons 700 vies. Bien évidemment, c'est des paliers symboliques. Il peut y avoir plusieurs milliers de vies dans la réalité. Je veux dire par là que dans une vie, on peut soit faire 3 vies en avant, soit 2 vies en recul. Vous comprenez, c'est selon le comportement libre de chacun.
Quand vous dites 700 vies, il s'agit de 700 vies comme une vie.
Non, c'est 700 marches. C'est des paliers de réalisation. J'ai bien dit symbolique. Je n'ai pas dit nombre de vies. Alors je vous renvoie à ce qu'on a évoqué précédemment comme étant les âges d'évolution. Hein, le tableau des âges d'évolution. Pendant les 700 vies, l'être intérieur, l'unité centrale, est prisonnière. Et donc vous avez la personnalité. Hein. La personnalité est réalisée. Je veux dire par là que vous avez un être qui va montrer des capacités intellectuelles, un savoir-faire de compétences. Mais il est centralisé sur lui-même et sur son petit monde. Alors là, il faut faire attention aux termes, parce que en termes classiques, hein, alors qu'en termes occultes, l'ego, c'est l'unité véritable de conscience, l'âme. Et il est en égocentrisme et en égoïsme, mais le terme ego désigne l'unité de conscience. Et l'unité de conscience centrale, c'est l'être que nous sommes. Ce qui veut dire que de vie en vie, selon sa dépendance à ses vies mineures, dans les trois mondes qui sont les siens, c'est-à-dire son corps physique, son corps émotionnel, son unité mentale concrète, il aura fait rentrer, nourri, choyé ses comportements habituels, qui sont ses vies mineures, dont la caractéristique essentielle est la volonté de désir. Si vous voulez repérer une vie mineure, observez, elle se manifeste par la volonté de désir, qui bien évidemment n'est pas la volonté de l'être. Au terme de ces 700 vies, l'être que nous sommes en réalité, puisqu'en fait nous sommes cette unité de conscience liée à cette racine de vie qui est rentrée dans le règne humain, eh bien, au même titre que des grandes vies ont en charge des mondes, l'être humain a en charge des vies mineures, c'est-à-dire ses corps. Ce que je voudrais, c'est que vous notiez la particularité, c'est-à-dire que nous sommes une unité centrale à bord de monde, et qu'en fait, notre aveuglement, depuis que nous sommes jetés dans les ténèbres, notre aveuglement fait que nous sommes prisonniers de ces vies mineures. Alors vous imaginez tous les excès qui font autant de liens d'emprisonnement. Hein. Mais comme la personnalité, donc ce triangle de monde, est maintenant en réalisation, eh bien l'unité centrale va pouvoir appréhender la prise de contrôle. Vous vous trouvez là avec la face symbolique de l'enfant prodigue qui dit « Qu'est-ce que j'ai fait pour me trouver dans ces situations pas possibles ?» Et là, vous avez l'intervention des épreuves, des obstacles, de la souffrance qui fait que l'unité centrale se dit « Il faut que je saisisse, il faut que... » Ah oui, il doit y avoir des règles, il doit y avoir des règles du jeu. Ah oui, 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 oui. Alors, quelle est la règle principale ? Je ne dois pas dépendre. Je ne dois pas dépendre. Alors, la première démarche, ça va être de ne plus dépendre des appétits physiques. Si je pars en excès sur mes aspects physiques, eh bien, je vais constater que je me heurte à des difficultés de santé. Deuxième palier, je ne dois pas dépendre de mes passions et pulsions émotionnelles. Et puis, je ne dois pas dépendre de la pensée unique collective. En d'autres termes, je dois avoir mon propre discernement. Alors en cela, je vous renvoie, si vous voulez, au message du Bouddha qui vous dit « Cessez le désir qui est la cause de la souffrance ». Et pour parler plus particulièrement du plan mental, il vous dit « N'acceptez jamais que ce qui vous convient, même si c'est le plus grand sage qui vous l'a dit. » Alors nous avons là cette grande prise de conscience. Qu'est-ce qu'une initiation ? C'est une prise de conscience qui, bien évidemment, s'accompagnera de réalisations dans la structure de nos corps, mais fondamentalement, c'est des prises de conscience. Quand l'être humain intègre la non-dépendance aux appétits physiques, il franchit, après des épreuves menant à cette prise de conscience, il franchit ce qu'on appelle la première initiation. Et par conséquent, il aspire à se discipliner, ce qui entraînera le fait d'être disciple des lois de la vie. Un disciple, c'est un disciple des lois de la vie. C'est quelqu'un qui se discipline aux lois de la vie. Quand, ayant progressé, il appréhende de ne plus dépendre de ses passions et pulsions émotionnelles, je ne parle pas de maîtrise, vous voyez bien la nuance, eh bien, il appréhende la non-dépendance au plan astral, et là, il va sortir du chemin de l'aller, et il va rentrer dans le cinquième règne. Cela veut dire que l'être qu'il est maintenant à même de s'auto-réaliser. Il entame donc ses 70 vies, il franchit la deuxième initiation et il rentre dans le cinquième règne. L'approche de la première initiation, c'est l'être qui est aspirant. La deuxième, il est disciple en probation, et quand il montre que, après une série de tests de la vie, il est accepté dans le cinquième règne. Cela s'accompagne de l'épuration karmique lourde. Qu'est-ce qui va caractériser un être du cinquième règne à ce stade? Il a en conscience la compréhension naturelle de la loi de renaissance et de la loi de karma. En conscience, il a la compréhension de la loi de renaissance et de la loi de karma. Pour lui, c'est dans l'ordre des choses. Si vous appréhendez quelqu'un subtilement, vous devez le tester là-dessus. Comment réagit-il à l'idée de la Renaissance? Il faut faire attention à la métapsychose. Hein. Je fais une parenthèse pour enlever, si vous voulez, cette erreur qui traîne. La mémoire hindoue étant très ancienne, elle remonte jusqu'à l'époque de 21 millions d'années à 18 millions d'années. Pendant ces 3 millions d'années, les portes étaient ouvertes entre le règne animal et le règne humain. Et donc les vies faisaient des allers-retours. Et la conscience hindoue a intégré, bien évidemment, ce passage métapsycho, c'est-à-dire de retourner dans le règne animal. Or, depuis 18 millions d'années, soyons clairs, les portes sont fermées entre les deux règnes. Donc il ne peut pas y avoir de redescente dans le règne animal.
Elles sont fermées dans un sens.
Oui, c'est-à-dire que les portes, si vous voulez, du règne animal ne sont pas ouvertes pour entrer dans le règne humain et vice-versa. Non, non. Mais on verra en son temps que le règne humain retarde l'avancée des vies qui devraient déjà être entrées dans le règne humain. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Il faut savoir que aujourd'hui, un cinquième de l'humanité est rentré dans le cinquième règne, de toute race, de toute couleur, de toute religion. Dans la période de 70 vies, concerne en fait l'emprise de l'être que nous sommes sur les vies mineures qui constituent nos corps, petit à petit la conscience de l'être va s'imposer à la conscience lunaire pour ramener ces champs de conscience de la non-séparativité, parce qu'il n'y a pas au niveau de l'âme mon âme, ton âme, il y a l'âme. C'est un peu comme si vous regardiez un verre d'eau en disant « la goutte, elle est où la goutte ?» Vous comprenez? Donc en tant qu'âme, il n'y a aucune séparativité, donc en tant qu'être. Et bien évidemment, cela va s'accompagner de champs de conscience appliqués, hein, j'entends par là « assumer ». Je ne fais pas à autrui ce que je n'aimerais pas qu'autrui me fasse.
Je crois quand même qu'on peut avoir conscience de ces petites choses-là, sans avoir, disons, passé, entre guillemets, sans avoir atteint le niveau de conscience de la deuxième initiation.
Ah ben, il faut savoir que ce qu'on expose...
Ça veut dire le faire réellement, aller dans le sens, faire tout ce qu'il faut.
Quand c'est en conscience appliquée, si tu veux, c'est devenu un instinct. Il faut bien comprendre que nous n'avons pas, à chaque instant, déroulé toutes les marches qui nous amènent... Non. Vous remarquerez qu'en fait, on arrive à un niveau de conscience et que tout le reste est instinctivement en fait intégré. C'est quand même intéressant parce qu'autrement, on serait toujours obligé de dérouler tout ce qu'on sait pour dire...
Non, tout à l'heure, comme tu avais dit, pour, quand on discute avec quelqu'un, etc., on peut tester, bon, dire que plein de gens vont avoir conscience au point de vue théorique...
Si tu veux, ça ne va pas les déranger. C'est un test. Hein, je dis bien, c'est un test. Ça ne va pas les déranger. Pour eux, c'est normal. Alors, donc, la première vie de groupe, c'est en fait que l'être cesse d'être le centre du monde et que, progressivement, il réalise que la vie, c'est des centres d'énergie qui sont partout et dont la circonférence est nulle part. Alors, bien évidemment, cela concerne la période des 12 commandements. Hein, les 10 donnés à Moïse, plus le 11e, qui est « aimez-vous les uns les autres », ce qui veut dire « pratiquer de justes relations », et le 12e qui est « que la volonté du Père soit faite sur la terre ». Les 70 vies, c'est l'aventure de groupe, c'est-à-dire l'être progresse dans sa conscience qu'il est une unité dans un vaste ensemble. Alors c'est pour ça que vous aurez le cours prochain, les 12 observances, qui sont pour l'être ce qu'étaient les 12 commandements au niveau de la personnalité en évolution. Vous aurez les 12 observances. À titre d'information, je vous les donne. Vous avez 3 observances liées à l'aspect père, unité, unicité, service. Vous en aurez. La vie est une. Il n'y a qu'une seule vie à travers tous les univers. Non, unicité, c'est pas pareil. La vie... Au niveau aspect vie, il n'y a qu'une seule vie. L'unicité, c'est lié aux êtres. Nous sommes, par exemple, en unicité de groupe. Les êtres ont intégré l'unicité de groupe, c'est-à-dire qu'ils vivent véritablement des justes relations. L'unicité concerne les relations des vies entre elles. Alors ensuite, lié à l'aspect fils, donc lié plus à l'âme, n'est-ce pas ? Amour, fraternité, respect de la différence, compassion. Maintenant, lié à la personne, humilité, mais dans son sens supérieur, oubli de soi, qui serait plus oubli du non-soi, montrer l'exemple, dépassement de soi, sérénité. Alors sérénité, c'est d'être toujours en conscience d'être, ce qui veut dire que si vous savez, alors que tout s'agite autour de vous, rester dans cette conscience d'être, vous êtes symboliquement dans la main du Père. Ici, vous êtes dans le règne spirituel. C'est 70 vies, le cinquième règne, quatrième règne, 700 vies. Ça va vous surprendre, mais tant que les êtres sont dans le non-soi, ils sont dans le règne le plus élevé de la nature. Mais c'est encore un règne lunaire. Alors bien sûr, vous allez me dire, quelle distinction ? Mais non, il n'y a pas de séparativité. Simplement, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Puisqu'en fait, la finalité, c'est justement de permettre à ce que les vies évoluent dans la traversée de l'évolution. Alors ensuite, vous avez les sept vies qui vont vous amener à la porte de sortie du cinquième règne et l'entrée dans le sixième, qui est le règne divin. Le septième règne étant le règne cosmique. Le quatrième règne appréhende l'énergie de la mère, l'intelligence divine. Donc, essentiellement à s'exprimer en activité intelligente. Le cinquième règne passe sur la dimension supérieure de l'intelligence, qui est la véritable intelligence, celle du cœur. Et il apprend à pratiquer l'énergie d'amour-sagesse, dont la véritable appellation, c'est l'énergie d'attraction et de répulsion. C'est comment se positionnent les atomes de vie les uns par rapport aux autres. Et par conséquent, tout ce qui est lié à l'appréhension de l'amour-sagesse s'appelle l'amour spirituel, donc le règne spirituel. Par contre, les sept vies sont liées à appréhender l'énergie de volonté divine, et là, on entre dans le règne divin. Et donc quand on parle d'unicité, ça concerne le règne spirituel. Quand on parle d'unité, ça concerne l'aspect volonté. Et je vous renvoie bien évidemment aux âges d'évolution. Alors, ici, moitié du cinquième règne va appréhender l'énergie d'amour-sagesse. La deuxième moitié va appréhender l'aspect volonté divine. Cet aspect va se faire en trois marches. D'abord, à maîtriser l'énergie manasique, intelligence du cœur. Rien n'est fait sans intelligence et juste relation, donc amour. Ensuite, il faut appréhender l'énergie bouddhique ou christique. Je fais aux autres ce que j'aimerais que les autres me fassent. En tant qu'âme, je ne fais pas à autrui ce que je n'aimerais pas. En tant qu'unicité, je fais à l'autre ce que j'aimerais que l'autre me fasse. Il faut montrer l'exemple. Quand vous passez à l'aspect atmique, la volonté divine, là, vous appréhendez cette énergie liée au dessein divin. Et donc, il y a un processus d'identification. On n'a pas pour l'instant de meilleurs termes. Des termes devront émerger puisqu'ils devront appréhender des subtilités de champs de conscience nouvelles. Mais il s'agit en fait de s'identifier avec la volonté du Père. Quelle est son intention ? Pourquoi la volonté du Père, c'est la volonté de bien de l'ensemble. Donc là, intelligence et amour sont devenus chez l'être un instinct. Et, par contre, il appréhende l'intention du Père, ce qui veut dire qu'il veille à ce que tout soit regardé du haut vers le bas, et par conséquent, de l'ensemble en application pratique. Le jour où les hommes, au lieu de faire les clivages et de penser à leurs petits trucs, verront le bien de l'ensemble, c'est le principe, si vous voulez, tout simple de la tarte sur la table. Et on demande à chacun de couper, d'accord ? Ou de montrer comment lui coupe la tarte. Ce n'est pas une mince affaire. Et à partir de lui, il lui faut 7 vies, mais ça peut se traduire par 20 ou 30 vies. Hein. C'est des paliers de conscience. C'est pour vous ayez une vue de cette traversée. Voilà. Et après, il se prépare. Alors vous avez bien évidemment les prises de conscience qui s'accompagnent. Et donc chaque plan, hein, si vous regardez votre tableau des plans, chaque plan est en fait une bande de conscience. Et ce qui veut dire que manasique, eh bien, c'est ce champ de conscience qui vous amène à user à bon escient, à bon équilibre de l'intelligence du cœur. Pas penser qu'il faut être un mouton qui se fait tondre. Hein. L'amour-sagesse, c'est la même chose. Qu'est-ce que la sagesse? C'est la fusion de l'intelligence et du cœur dans une juste proportion. C'est ça la sagesse. C'est l'énergie d'intelligence, donc liée à la mère, avec l'énergie du fils, amour. Et les deux vous donnent la sagesse. Et ensuite, eh bien, vous avez l'initiation liée à la volonté divine. Et à chaque fois, vous avez donc quatrième, cinquième initiation. Quand l'être assume, eh bien, il est dans ce champ de conscience. Donc de fait, il a atteint cette ouverture d'esprit. C'est pas compliqué, hein, à mettre en pratique, certes, mais à la compréhension, c'est pas compliqué. Hein. Voilà. Alors, les deux dernières, conscience monadique, il ne suffit pas de le savoir, il faut le vivre. La conscience monadique, l'autre est une partie de moi-même, et vice-versa. Et la conscience adique, tout en haut, je vous signale que tout ça s'accompagne de responsabilités. Hein. Je ne vous demande pas d'arriver aux deux derniers champs de conscience, mais il faut savoir que plus on est conscient, plus... Et la dernière, de par tout ça, c'est ce que je vous ai laissé entendre quand je disais « Et le plus petit sur cette terre rejoint le plus grand des cieux. » D'accord ? Parce que consciemment, il peut dire « Moi, Dieu, je suis matière. » Mais cela voudra dire qu'il aura élevé la matière au ciel. Donc, il aura rempli, si vous voulez, non seulement son contrat de vie personnel, mais il participe au contrat de vie du logos planétaire, du logos solaire et du logos cosmique, qui ne sont pas tout à fait pareils. Pour entrevoir la chose... L'un porte sur l'aspect intelligente, l'autre sous l'aspect amour et le troisième sous l'aspect volonté. Ce que je vous expose est éclaté dans Bélé. Hein. Simplement, bon, c'est tellement éparpillé, comme on dit, que ça relève de la salade russe. C'est un peu le rôle aussi, hein, de faire en clair pour que, si vous voulez, vous ne soyez pas... Souvenez-vous, je vous ai dit, il faut 21 ans à raison de 2 heures par jour pour arriver à surfer dans Bélé Blavatsky. Et donc le but, c'est que normalement, en 7 ans, si vous voulez, à raison d'une réunion par mois, ben, les aides sont à même d'avoir toutes les bases données.
Il y a une chose qui m'a frappé, que vous avez dit tout à l'heure, le cinquième règne, il y a à peu près un cinquième de l'humanité, 20%.
Oui.
Ce qui me frappe, c'est que c'est un chiffre qui correspond grosso modo à ce qu'aujourd'hui on a tendance à appeler, notamment dans un autre plan, les créatifs culturels, mais au fin de compte, qui sont des individus qui auraient a priori tendance à avoir avancé un petit chouïa davantage que les autres sur ces plans.
Je ne connais pas le terme créatif culturel.
Enfin, qui n'a qu'une importance relative.
Ah, je...
Individus identifiés.
Alors, la seule chose que j'évoque, c'est que nous ne sommes plus dans l'épanouissement de l'intellect, qui relève du quatrième règne, avec le risque de l'hyper-développement de l'intellect, qu'on voit émerger sous ces personnages qui n'en peuvent plus d'être des technocrates et...
Ce sont des gens qui agissent.
Alors je préférerais le terme spirituel, culturel. Bah oui, parce que relation. Hein. Un cinquième de l'humanité est rentré dans le cinquième règne. Seul problème, en précision, c'est que seulement un cinquième de ce cinquième s'assume. Les quatre cinquièmes tombent à la matérialité terrestre. Et c'est d'autant plus gênant, qui sont-ils? Ce sont des êtres qui ont traversé le cycle de l'aller. Donc ils ont des personnalités et des facultés tout à fait épanouies. Ils regardent ce monde matériel et ils disent « Ah, accumuler des biens, des richesses, je suis doué pour faire ça, moi ». Et en fait, ils se mettent à jouer dans le camp inverse.
Et la répartition sur le globe, de ce cinquième, est-ce qu'elle était harmonieusement répartie ou au contraire c'est...
On va dire que la fine fleur de l'humanité, montre actuellement des compétences pour apporter au monde un bien-être qui est souvent immatériel. Bon, le seul risque, c'est ce dérapage, c'est-à-dire, pour parler très clair, l'accumulation de biens, de richesses, ça ne pose aucun problème, dès l'instant où, à un moment donné, il passe dans sa dimension spirituelle, c'est-à-dire pour apporter aux autres. Le confort est tout à fait, je dirais, naturel, équilibré, le luxe, là, c'est du dérapage, et si un être est vraiment en réalisation spirituelle, eh bien, à un moment donné, il a une participation de groupe. Donc, il donne aux autres, il crée pour les autres.
La question est de savoir peut-être si dans les autres, les gens vont le faire complètement et non comme rien, s'ils peuvent être dans ce...
Non, c'est pas
la répartition. Oui, il le voyait plus à l'opposé. C'est-à-dire où se situe, en fait, on va dire que l'occidental, pour l'instant, est favorisé. On a une situation un peu paradoxale, à savoir que, on va dire par exemple l'Asie, notamment les hindous, dans la conscience collective, la loi de renaissance, la loi de karma est complètement intégrée. Problème, je suis éternel, on verra dans la vie suivante. Et les sanctions qui s'en suivent. D'où l'appauvrissement de leur corps énergétique et d'où, bon. Puisque plus il y a de responsabilité de connaissance, plus il y a de... Hein, l'occidental est à la limite actuellement protégé de ça. Le seul problème, c'est qu'il y a les rendez-vous. Or, aujourd'hui, nous sommes dans un cycle de l'ordre cosmique. Alors, cet ordre cosmique est déjà venu 5 fois au rendez-vous. Hein. Depuis l'ère des poissons, mais au sens cosmique, si vous voulez, il est déjà passé 5 fois.
Qu'est-ce qu'on peut penser du continent africain et même des Amérindiens?
Alors, l'Afrique, il faut savoir que le peuple noir est une sous-race qui, en son temps, a été aussi, je dirais, en phase dominante que la race blanche. Et comme elle a été cruelle et qu'elle a asservi, on a le retour de l'histoire actuelle du peuple noir. Et la race blanche, elle déborde aussi. Nul n'échappe à la loi. Tout ce qu'on peut dire pour avoir un repère, c'est que le Sahara, en son temps, était aussi verdoyant que l'Europe. D'où d'ailleurs le pétrole. Hein. Le pétrole, c'est de la putréfaction de végétaux et de minéraux. Donc imaginez. Hein,
c'est... Mais curieusement, il n'y a pas si
tout ça. Oh, autant que
l'effet cosmique, c'est pas
la chose. Non, puis ça concerne notre cinquième race. Hein.
Au niveau du cinquième règne, quand je veux dire au niveau de
la partie. Ah, t'en as aussi. Hein. Il faut comprendre que la finalité des êtres qui sont dans le cinquième règne, donc des êtres qui s'assument. Ce qu'il faut comprendre, si vous voulez, quelle est la différence entre un être du quatrième et un être du cinquième? Un être du quatrième, il est lunaire, il est prisonnier de ses mondes. Est-ce que vous voyez bien la nuance? C'est-à-dire que l'être qu'il est en réalité n'a pas les commandes. Donc il est mené par le bout du nez. Un être du cinquième règne, il est déjà à dire, mon contrat de vie, j'en suis à telle page. C'est en fait une vie qui a en main son contrat de vie. Et à partir de là, dans l'Afrique, tu as des êtres du cinquième qui sont là pour essayer de faire lever, si tu veux, mais ce sont des parcelles de vie dans le peuple noir.